Les mesures proposées vont nous permettre de cesser d'être sous-payés, mais ça n'interviendra qu'au mois d'octobre.
Davantage d'argent pour les soignants. Plus d'un demi-million d'infirmiers, d'aides-soignants, de personnels paramédicaux des hôpitaux publics vont bénéficier d'une revalorisation de leur salaire.
Une mesure importante prévue dans le Ségur de la santé, dont on a ce soir le détail.
La réouverture des terrasses, pas encore chez nous, mais de l'autre côté de la Manche, les Anglais apprécient. Vous le verrez, on sera à Londres.
Une pandémie qui a détruit 100 millions d'emplois dans le secteur du tourisme, nous dira Didier François.
Suez a fini par céder aux avances de Veolia. 8 mois de discussion et enfin un accord. Et puis Paris, sans son capitaine. Marquinhos forfait demain pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. PSG, Bayern Munich. En revanche, les Parisiens pourront compter sur Verratti.
La météo, Anissa Dadi, est-ce qu'il va faire aussi froid que la semaine dernière demain?
Alors, la réponse à cette question est non, Julien, mais les gelées matinales sont en effet de retour et elles vont se généraliser sur une grande partie du pays. Elles seront moins rigoureuses que la semaine dernière et puis dans l'après-midi, malgré le soleil bien présent, le froid se maintient.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On ne les applaudit plus comme lors du premier confinement. Pourtant, ils sont plus que jamais en première ligne. Les soignants méritaient bien un coup de pouce sur leur feuille de paye.
Oui, le comité du Ségur de la Santé était réuni cet après-midi autour du ministre de la Santé. À cette occasion, Olivier Véran a donc fait de nouvelles annonces concernant la rémunération du personnel soignant, Anne Le Gall.
Oui, après les 183 euros nets déjà accordés à tous les personnels des hôpitaux publics, Olivier Véran a annoncé tout à l'heure un coup de pouce supplémentaire pour revaloriser les carrières des professions paramédicales à l'hôpital. 500 000 personnes sont concernées, les infirmiers, aides-soignants, kinés, auxiliaires de puériculture, orthophonistes notamment. Avec cette nouvelle grille qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre, un infirmier généraliste débutant verra par exemple son salaire passer de 1736 euros nets par mois à 2026 euros nets mensuels et il finira sa carrière à presque 3400 euros nets. C'est 530 euros de plus qu'aujourd'hui. Au total, les revalorisations pour les différents métiers sont comprises entre 250 et 650 euros nets de plus par mois, une somme qui inclut les 183 euros déjà distribués. Budget pour cette mesure, 740 millions d'euros par an, avec un objectif double, indique-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran, continuer d'attirer les jeunes dans les métiers paramédicaux à l'hôpital et encourager les vocations jusqu'à la fin de leur vie professionnelle.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Thierry Amouroux est le porte-parole du syndicat national des professionnels hospitaliers. Pour lui, c'est une bonne nouvelle évidemment, mais surtout un rattrapage.
Avant la crise Covid, nous étions sous-payés, moins 20% sous le salaire infirmier européen. Et donc, les mesures proposées vont nous permettre de cesser d'être sous-payés, mais ça n'interviendra qu'au mois d'octobre, donc dans 6 mois, un an et demi après la première vague Covid. Certes, on va être un peu mieux payés, mais nous sommes toujours en sous-effectif. Lors de la première vague, nous étions à une infirmière pour 6 patients Covid. Or, là, sur cette vague, nous sommes plutôt à une infirmière pour 8 patients Covid. Parce que malheureusement, les plans d'économie sur l'hôpital continuent, avec des suppressions de lits et des suppressions de postes qui ont lieu depuis le premier déconfinement le 11 mai dernier.
Le porte-parole du syndicat national des professionnels hospitaliers, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock. Vous savez que depuis ce matin, un nouvel outil permet de faciliter les dépistages, les autotests disponibles en pharmacie, même si beaucoup pour l'instant ne les ont pas encore reçus. Ça va permettre de se dépister chez soi avec un coton-tige, comme pour les antigéniques ou les PCR, sauf que celui-là est payant 6 euros le test.
Autre nouveauté du jour, Isabelle, les plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner.
Sans comorbidité, ça veut dire tous ceux qui le souhaitent, sans condition, mais ce sera forcément avec AstraZeneca ou avec le nouveau vaccin de Janssen qui arrive dans les prochains jours et qui a la spécificité de ne nécessiter qu'une seule dose. La pandémie a atteint un point critique avec des infections qui croissent de manière exponentielle. C'est ce que dit aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. La semaine dernière, le nombre de cas a progressé de 9% dans le monde et les décès ont augmenté de 5%.
En Angleterre, en tout cas, il y a comme un parfum de liberté depuis ce matin.
Et oui, progressivement, nos voisins outre-Manche retrouvent un semblant de vie normale après des mois à la maison. L'Angleterre, pays le plus endeuillé d'Europe, mais aussi le plus vacciné. Le nombre de décès quotidiens est tombé à 50. 3000 nouveaux cas dépistés par jour. Résultat donc, réouverture des commerces non essentiels, des coiffeurs et surtout des pubs. Théo Manval, vous êtes à Londres. Alors c'est uniquement en terrasse pour l'instant, mais des terrasses qui sont prises d'assaut.
Ah oui, la bière coule à flot, ça a commencé à dès midi à l'ouverture des pubs ici.
Freedom,
liberté.
Une bière au goût de liberté pour beaucoup, après 4 mois passés enfermés.
Ah, délicieuse, ça faisait si longtemps. Une bonne Guinness bien crémeuse, je lui mets 9 sur 10. Ça fait 2 semaines que j'ai réservé, vous voyez, c'est complet. Ça valait le coup. J'espère juste qu'on va pas nous mettre dehors trop rapidement.
Et pourtant, c'est 2 heures par groupe, hein, aux tables des terrasses, pour que tout le monde ait droit à son breuvage. Ça va laisser le temps d'en écluser quelques-unes à ce groupe de retraités.
On a commandé 5 pains chacun. J'ai déjà eu mes 2 doses de vaccin, mais ça, ce sera mon rappel. Normalement, on se retrouvait ici 2-3 fois par semaine. Mais là, ça fait 6 mois qu'on ne s'était pas vus. Ça manquait.
Et certains ont carrément posé leur journée pour ça, comme ces jeunes femmes, dont la soirée promet aussi d'être arrosée. Pas de couvre-feu ici, mais une idée assez originale.
On a pris un café et une pinte de Guinness. Comme ça, ça s'équilibre.
Ça fait une boisson solide pour marquer le coup. Plus besoin de manger maintenant.
Voilà, on verra combien de temps elles tiendront comme ça, probablement de pub en pub. Les retrouvailles des Londoniens avec le houblon ne font que commencer.
Ça me promet en effet. Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
Et allez-y mollo Théo quand même avec la bière. Hein. Et si les Anglais recommencent à trinquer, ils ne peuvent pas encore faire de projets pour les mois à venir. Trop d'incertitudes. Nous non plus d'ailleurs. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, l'a rappelé, la circulation de l'épidémie est encore trop élevé en Europe pour que l'Union européenne puisse avoir la certitude de rouvrir ses frontières pour les vacances.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier, l'arrêt du tourisme depuis maintenant pratiquement 2 ans est une catastrophe, hein, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier.
Bah écoutez, oui, 100 millions d'emplois détruits dans le secteur du tourisme depuis le début de la pandémie, dont 62 millions rien que pour l'an passé. Conséquence d'une chute de 74% des voyages à l'étranger. C'est le chiffre terrible publié cette semaine par l'Office mondial du voyage et du tourisme et qui résume l'ampleur du problème, confirmé par l'Organisation de la coopération et du développement économique, hein, la très sérieuse OCDE, qui estime qu'à l'échelle internationale, ce sont 4 travailleurs sur 5 qui ont perdu leurs emplois dans les petites et moyennes entreprises qui vivaient jusqu'à l'heure de cette activité. Les différentes mesures de confinement ou de quarantaine, les fermetures des hôtels, des restaurants, des musées, des salles de spectacle, l'effondrement du trafic aérien, tout cela a eu raison d'une multitude de petits boulots. Alors les artisans, les bagagistes, les plagistes, les loueurs de matelas, les masseurs, les guides ou les chauffeurs, en 2020, on estimait à 270 millions le nombre de personnes qui arrivaient à survivre, voire même à prospérer pour certains grâce aux activités induites par le tourisme de masse. C'est environ 10% de la richesse mondiale produite, donc loin d'être anecdotique.
Oui, ça ne touche pas seulement les pays pauvres.
Oui, alors évidemment, les pays pauvres sont dramatiquement touchés parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place de filet de protection au niveau social, et certains sont même extrêmement dépendants. On prend l'exemple des Bahamas, c'est 52% des emplois qui sont liés au tourisme. On pense aussi à la Thaïlande ou au Kenya, mais pas seulement. Prenez la Croatie, 25%, un emploi sur 4. La Grèce et Malte, c'est respectivement 22 et 21%. On est pourtant là dans l'Union européenne. Et puis alors les États-Unis, on l'oublie souvent, mais c'est très touristique. 3,5 millions de postes supprimés avec un géant comme Walt Disney qui, en Floride, est obligé de distribuer des colis repas à ses anciens employés sur les sites de ces parcs d'attractions qui ont été fermés. Et puis alors en France, rappelons-le, hein, le tourisme, c'est 8,5% du produit intérieur brut. Donc une campagne de vaccination massive pour tenter de sauver les vacances d'été, ben, ce n'est pas simplement un enjeu de bien-être psychologique.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
L'actualité marquée également par cette fusillade à Paris, à la mi-journée dans le 16e arrondissement, devant l'hôpital Henri Dunant. Un homme est mort, une femme a été très grièvement blessée. Il s'agit d'une agent de sécurité. Le tireur, dont on ignore les motivations, a pris la fuite en deux roues. La piste du règlement de compte semble, mais il faut rester prudent, semble privilégiée.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous évidemment, 19h08, dans quelques secondes. Veolia-Suez, ça y est, les deux géants sont enfin tombés d'accord.
Et puis le plus dur reste à faire pour Paris, confirmer l'exploit face au Bayern demain. À
tout de suite. À 19h10, c'est donc la conclusion d'un feuilleton à rebondissement et d'une âpre bataille. Veolia et Suez ont fini par s'entendre en vue d'un rapprochement.
Oui, on vous a souvent parlé sur Europe 1 des velléités de l'un de mettre la main sur l'autre. Les deux géants de la gestion de l'eau et des déchets n'ont pas toujours eu des mots très doux, hein, l'un pour l'autre. Mais finalement, ça y est, Aurélien Fleurot, un accord a donc été trouvé.
Oui, et c'est finalement Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui a gagné ce bras de fer entamé il y a maintenant 7 mois. Une période pendant laquelle, c'est vrai, les deux directions se sont affrontées à coups de communiqués vengeurs et d'interviews, sur Europe 1 d'ailleurs, pour défendre leurs intérêts respectifs. Cette issue semblait inéluctable, mais il fallait trouver une solution qui permette à tout le monde de sortir par le haut. Et c'est globalement le cas avec ce rapprochement à venir qui va faire de Veolia un géant mondial de la transformation écologique et qui permettra à Suez de garder la main sur ses activités en France. Notamment, un nouveau Suez sera constitué. Chiffre d'affaires évalué à 7 milliards d'euros, soit tout de même 5 fois moins que celui du futur Veolia. Un accord à l'amiable donc, alors que la situation s'était dégradée après l'annonce d'une OPA hostile par Veolia en février dernier. Issue saluée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui se réjouit que soit préservée la concurrence pour les clients et l'emploi pour les salariés. Les deux groupes se sont donnés jusqu'au 14 mai pour conclure cet accord de manière définitive.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service Écho d'Europe 1. Et puis le foot, la pression monte chez les supporters parisiens. C'est J-1 avant le quart de finale. Retour de Ligue des Champions, PSG, Bayern. Munich.
Oui, on part au Parc des Princes cette fois, des Parisiens qui l'ont emporté 3-2 à l'aller, mais qui devront faire demain sans leur capitaine Julien Froment, et ça va être compliqué.
Ouais, c'était un secret de polichinelle, même l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino cet après-midi lors du point presse se montrait guère optimiste. Marquinhos, victime d'une lésion à l'adducteur, est donc forfait. On devrait connaître demain avec plus de précision son indisponibilité, ce qui n'empêche pas le club d'être ambitieux. Le défenseur est certainement capitaine demain soir, Presnel Kimpembe.
On n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est sûr que de pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. Surtout que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux, mais voilà, ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification.
Et Paris qui se remplume tout de même, retour de deux joueurs covidés, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, retour d'Abdou Diallo pardon, qui était malade. Les deux premiers débuteront sur le banc. Diallo, lui, pourrait être titulaire. Enfin, la sainte trinité du PSG, Navas dans les buts, Neymar et Kylian Mbappé devant seront là, en pleine forme, et ça, c'est peut-être la meilleure des nouvelles pour le Paris Saint-Germain.
Et vous y serez, vous aussi.
Et qu'est-ce qu'il dit Julien Froment sur le pronostic?
Comme la dernière fois, on verra. Je ne me mouille pas.
Donc demain, 20h, grande soirée au foot, évidemment. Vous serez aux commandes, aux
avec
manettes,
Cyril
avec Cyril de la Morinerie. Grande soirée au foot, dès 20h.
Bien, on y sera évidemment à l'écoute d'Europe 1. Merci Isabelle, à demain à partir de 18h. La météo, Anissa, qui nous annonce du froid et encore du froid pour demain.
Oui, c'est vrai que la journée sera ensoleillée demain sur une grande partie du pays, mais on va avoir froid. Donc avec l'écharpe, vous mettrez vos lunettes de soleil. Prudence demain matin en Bourgogne, nous avons un risque de verglas en région parisienne et Basse-Normandie jusque sur les Ardennes. Là, les nuages bas forment quelques brouillards, donc si vous devez prendre la route tôt demain matin, soyez prudents. Dans l'après-midi, le soleil s'impose partout, le ciel sera bien dégagé. Un petit risque d'averse sur les montagnes corses et puis le Mistral et la Tramontane se lèvent dans le sud jusqu'à 80 km/h. À part cela, oui, tout va bien, il fait beau, les températures elles sont très froides, moins 5 à Montluçon, moins 4 à Beauvais et à Morteau dans le Doubs, moins 3 à Vichy et Rouen, moins 2 pour Amiens et Clermont-Ferrand, moins 1 à Besançon, un petit degré à Paris, 3 à Lyon et 8 à Bastia. Dans l'après-midi, nous aurons exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui.
Oui. Vous dites ça va pas, mais à part ça, tout va bien. J'ai compris votre technique, hein, Nissa.
Non, il y a quand même du soleil
de nous
demain.
Et de garder la positive attitude. Merci en tout cas pour ce point, je blague. Merci Anissa, à demain 18h.
Europe Soir, le 18-20.